accord national et d'un accord professionnel,
enfin une nouvelle, parce qu'il y en a eu d'autres, qui à la fois, notre point de vue à plusieurs, sanctionnait un certain nombre de choses et en même temps allait les accélérer. Donc c'est évident qu'on ne va pas discuter là, ad vitam aeternam, je dirais des côtés juridiques, entre guillemets, de l'ANI proprement dit. Et deuxièmement, de quelles modifications il introduit en termes aussi juridiques, quoi, dans le code de travail, dans le code du travail existant à l'heure actuelle, quoi, dans quelle mesure, etc. Ce qui est intéressant de voir, on voudrait surtout, bon, a priori, ceux qui ont participé à la petite brochure qui est dans l'intervention numéro 11, quoi, si vous voulez. Je pense qu'elle est là.
Quoi. Oui, je les ai distribués sauf à une personne.
Ce qu'on aimerait, c'est évidemment un peu voir, discuter un peu plus en profondeur de ce qu'il y avait
derrière. C'est un complément.
Ce que ça révèle et ce qu'il y avait derrière. Bon, on a un certain nombre à penser, pas nécessairement, disons formellement, à temps critique, puisque moi je suis pas formellement, formellement je dis bien à temps critique. On a un certain nombre à converger sur la nécessité de revenir sur les mutations de ce qu'on appelle le travail, ou plus exactement, je dirais, l'activité salariale, quoi, à l'heure actuelle, bon, donc en particulier en France. Parce que, bon, on pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment matière, et il y a vraiment matière aussi parce que ça va avoir des implications pratiques en termes de lutte, quoi. C'est pas juste des discussions purement théoriques sur ces mutations, quoi. Ce qu'on pense, c'est que bon, on a été on a un certain nombre à avoir participé à des degrés divers, surtout pour les plus vieux, je dirais, quoi, à tout ce qui était les mouvements ou les oppositions en termes de critique du travail, par exemple dans les années 70, soit dans les entreprises, soit pour ceux qui n'étaient pas dans les entreprises, de mille et une façons. On en a un peu aussi éprouvé les limites, qui ont d'ailleurs été signalées souvent dans la revue, quoi, en tant que critique. Et donc ce qu'on pense, c'est que on n'a pas épuisé. C'est pas parce qu'on a participé.
Oui, la limite essentielle, juste un mot.
Ouais.
Quand on dit les limites de la critique du travail, il y a deux limites. Il y a une limite qui vient de notre côté, puis une limite de l'autre, je dirais. Ouais. La limite qui est la nôtre, c'est d'avoir fait une critique du travail, comme si le travail n'était que... Dans les milieux anarchistes ou ultra-gauche ou autres, on fait toujours référence à Tripalium, etc., le travail comme torture. En manque de peau, le travail, c'est pas qu'une torture. Et toute la classe ouvrière amoureuse de son travail ou de son outil de travail, etc., comme on le clame à la CGT, mais pas uniquement à la CGT, ça aussi une existence. Et que cette existence-là, dans une critique du travail, disons, complètement déconnectée de cette réalité, elle nous a amenés au mur. Donc ça, c'est une première limite. Deuxième limite, c'est même quand cette critique du travail était intégrée, comme en Italie, beaucoup plus intégrée, que ce n'était pas une critique à la situ, disons, c'est-à-dire une critique de gens qui n'avaient pas... une critique interne, en quelque sorte, une critique, par exemple, dans la Fiat, qui était effective, cette critique du travail a trouvé ses limites, puisqu'à la Fiat, dès 1973, le mouvement était terminé, pratiquement, et qu'il s'est déporté sur autre chose, et finalement, dans un secteur extra-travail, puisque le slogan « Reprendre la ville », par exemple, a été un des slogans de sortie, et puis aussi pour une raison simple, comme dans la révolution allemande de 21-23, etc., c'est-à-dire que les gens les plus combatifs dans les usines, à partir d'un certain moment, ils ne sont plus dans l'usine. Soit parce qu'ils ne veulent plus y être, soit parce qu'on s'en est débarrassé. Donc ça, c'était une limite. Et puis deuxième limite, c'est une limite, je dirais, objective, mais qui nous vient du capital en tant que pôle oppositionnel, en quelque sorte, c'est la critique du travail, c'est le capital qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'en avait plus besoin. Donc à partir de là, licencier, fermer les usines, remplacer 50 mètres par un mec, c'était pas un problème pour lui. Donc là aussi, on était court-circuité, au moins quand ça s'est posé, par exemple, reprenons les milliers de licenciements à la Fiat, en plein pendant les luttes. Quoi. Et puis, le passage à une automatisation, par exemple, à la FIAT. Voilà, c'est juste pour...
On va revenir en détail, mais dans le cadre de... Bon, il a eu raison de préciser l'élection de ministre, voilà, c'est un peu basse. Puis, bon, on pense donc que c'est important, pour plein de raisons, et entre autres, parce que même ceux d'entre nous, par exemple, qui, depuis de nombreuses années, s'agitent, s'opposent, se battent, enfin, peu importe le terme, sur des terrains qui ne sont pas strictement ceux du travail salarié au premier degré, je pense là, je ne sais pas, aux OGM, au nucléaire, dans mon cas aux OGM, au nucléaire, etc. etc. Aussi important que puisse paraître, qu'ils le sont d'ailleurs, aussi important, c'est pas seulement que puisse paraître, que soient effectivement, ces formes d'opposition, je ne rentre pas là dans les détails des limites, justement, tout ça. En ce qui me concerne, par exemple, je n'ai jamais considéré qu'on pouvait poser, je veux dire cela, indépendamment des questions d'activité salariée, qui apparaissent, y compris en leur sein, de façon des fois détournée, etc. etc., etc. Donc, il est évident que on ne se place pas, enfin, je pense en tout cas les personnes qui ont participé au texte sur la vie, quoi, ne se place pas du tout dans la perspective de qu'il y aurait en elle-même des formes de lutte auto-opposition qui seraient plus intéressantes que les autres. Je ne sais pas, moi, en soi, ça serait plus intéressant, comme ça, Notre-Dame-des-Landes, ou je ne sais pas, des oppositions anti-THT auxquelles j'ai participé, personnellement, que, je veux dire, ce qui peut se passer, effectivement, sur ce qu'on appelle habituellement l'activité extérieure, stricto sensu. Il n'y a aucune raison de faire une hiérarchie, je dirais, quoi, en fait. Il peut y avoir, à l'heure actuelle, il n'y en a pas trop, c'est vrai, en France, il peut y avoir des choses importantes qui se passent, y compris sur... le terrain de l'activité salariée, il peut y avoir des choses importantes qui se passent en dehors, formellement, du moins en termes de presque, je dirais, géographique, sur d'autres termes, il n'est pas question, a priori, d'introduire, évidemment, de hiérarchie. Voilà, je pense que ça, c'était aussi important, parce qu'il y a toute une tendance, en particulier à l'heure actuelle, en France, qui consiste à dire, a priori, ce qui peut se passer dans le domaine de l'activité salariée, même en termes de position, donc. De révolte sur ce terrain, etc. A priori, c'est pas très. A priori, ça serait pas très intéressant, ou je dirais, d'intérêt inférieur à ce qui se passe dans d'autres secteurs. Encore une fois, je n'énigre pas le reste, mais je n'ai pas l'intention de rentrer dans un truc à l'envers, de la même façon que certains disaient la grève c'est la forme supérieure de lutte et le reste c'est pas important. J'ai pas envie de retourner le truc formellement en disant le reste c'est plus important, très concrètement, et en soi, il y aura par exemple des grèves qui n'auront aucune importance, qui seront contingentes à mettre. Donc voilà, donc c'était un peu grosso modo l'introduction, je veux dire, on va redévelopper plus en détail. Hein. On va intervenir.
Oui, c'était le sens de l'intervention sur ce sujet-là. Quoi.
Sur le sujet, quoi, voilà. Quoi. C'était sur le sujet. Voilà. Donc à partir de là, on va peut-être redévelopper.
Oui, disons que peut-être partir de points plus concrets, mais pour continuer à faire le lien. Avec l'idée de départ, parce qu'on ne fait pas les choses, parce qu'on est des spécialistes de l'écriture, qu'on a des facilités d'écriture, ce qui peut être le cas, mais qui n'est pas le cas de nous tous, mais parce que ça, on rencontre des choses soit bizarres ou étonnantes qu'il faut éclaircir. Et par exemple, moi, ce qui m'avait choqué, je pense que vous aviez aussi, en tant que précaire, entre guillemets. Ce qui nous a choqué aussi, c'est que, hormis la réaction de la CGT, qui était une réaction tout à fait normale, puisque l'ANI, à notre sens, attaque la CGT, c'est-à-dire elle attaque les ouvriers de la CGT. Bon. On n'a pas du tout compris pourquoi, dans tout le milieu d'extrême-gauche, ou qui se dit radical, l'ANI a été présenté comme le summum du néolibéralisme, etc. Parce que si on lit l'ANI, et sans rentrer dans les détails, si on lit l'ANI, l'ANI s'attaque plutôt à essayer de déshabiller Paul pour habiller Pierre, enfin à essayer de trouver des systèmes où on joue un peu les vases communicants. C'est-à-dire que les ouvriers garantis des grandes entreprises, on va leur manger un petit peu de laine sur le dos, mais par contre, on pourra céder sur certains aspects les plus dégueulasses du travail intérimaire, etc., ou du travail ou des contrats non typiques et
de
tout.
De vacataires.
Oui, ou de vacataires, etc., sur les titularisations, comme il vient encore d'en avoir des exemples dans certains secteurs, de vacataires.
Oui.
Bon, donc ça, c'était aussi quelque chose qui nous intéressait, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un petit peu, c'est un point de départ un peu des interventions, c'est-à-dire essayer d'intervenir sur un sujet, mais en essayant non pas de le prendre de façon technique, mais au moins d'essayer de voir ce qu'il y a dedans et de ne pas avoir le réflexe pavlovien.
C'est de pire en pire.
C'est le méchant plan du capital, c'est de pire en pire, c'était bien mieux pendant les 30 glorieuses, etc. Voilà. C'est juste pour montrer ce qui nous a motivés. Alors autrement, je voulais donc repartir de choses concrètes, puisqu'on parlait des transformations du rapport salarial. En fait, ces transformations du rapport salarial, on les lie à des transformations qui ont lieu dans ce que certaines personnes ont appelé la révolution du capital, c'est-à-dire que, disons qu'à partir des années 80, suite à certains éléments de la crise des années 70, bon, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais, bon, disons, grosso modo, une chute des profits, épuisement du mode fordiste de fonctionnement et du taylorisme, luttes ouvrières avec des OS contre le travail à la chaîne, etc. Bon, suite à ça, il y a un certain nombre de restructurations qui ont lieu, et donc de mutations qu'on peut retrouver, bon, je vais les classer en trois groupes, hein, mais qui sont liées, donc dans l'organisation de la production, dans l'organisation du travail et dans l'organisation du marché de l'emploi. Donc je les reprends tels quels, je vais assez vite, hein, parce que c'est relativement connu, mais c'est juste pour placer les choses et les relier. Donc premièrement, au niveau de l'organisation de la production, bon, les choses connues, c'est que c'est plutôt ce qu'on a appelé, donc y a plusieurs éléments. Le toyotisme est censé suppose remplacer le fordisme. La chaîne, en quelque sorte, s'inverse, c'est-à-dire il ne s'agit pas de produire avant de consommer, mais il s'agit de consommer avant de produire, quasiment. Donc on inverse, c'est-à-dire qu'on a... Bon, c'est le zéro stock, machin et tout, je passe. Deuxième élément, ce qu'on appelle la substitution capital-travail, c'est-à-dire que la restructuration des entreprises se fait sur la base d'une augmentation de productivité, mais uniquement... dans le cadre d'une compétitivité plus que dans le cadre d'une extension de la production. C'est-à-dire que ce qui devient essentiel, le marché automobile en est un bon exemple, c'est que tous les marchés sont en tendance saturés sur les produits de la première phase de la société de consommation. Tous ces produits sont donc concernés par une situation de surproduction. Donc chaque entreprise se trouve devant le truc de ne pas produire par exemple plus de bagnoles, mais de trouver le nombre adéquat de bagnoles à partir duquel on gagne de l'argent, ce que les spécialistes de l'automobile appellent le point mort. Hein, ce point mort doit être abaissé au plus bas possible, par exemple, de façon, si vous produisez, si votre point mort est à 500 000 voitures, et que, par exemple, vous produisez 600 000 voitures, bon, vous êtes à 100 000 au-dessus. Mais si le marché se rétrécit, et que vous passez en dessous du point mort, vous êtes mort. Hein? Donc la restructuration se fait sur une autre base. Par exemple, c'est comme ça que Chrysler s'est restructuré, qui était la plus petite des grosses. Ils ont licencié massivement, ils ont baissé le niveau de production, et ils sont repartis sur le small is beautiful. Hein? C'est-à-dire que les entreprises étaient aussi victimes d'une trop grosse accumulation, d'un capital fixe énorme par rapport au profit dégagé, des problèmes de vente, tout un ensemble de choses qui nécessitaient un redémarrage donc sur une base de technologie beaucoup plus développée, beaucoup plus automatisée, et qui allait permettre de dégraisser, enfin il allait avoir un double dégraissage de la structure bureaucratique assez importante dans les grandes entreprises, et dégraissage du personnel, parce qu'on pouvait produire avec beaucoup moins de personnes à partir du moment où on n'avait plus besoin de garder ce qu'on appelle ce qui était le travailleur fixe, assimilé par exemple presque à un capital fixe. C'est-à-dire dans les coûts d'entreprise, on a des coûts fixes et des coûts variables. Normalement, le salarié a toujours été enregistré en tant que coût variable. Par exemple, dans le marxisme, dans la théorie de la valeur marxiste, le salaire est un coût variable. Mais dans le capitalisme tel qu'il est, dès la période des 30 glorieuses, le salaire est un coût fixe. C'est-à-dire que le travailleur travaille ou pas, il coûte la même chose. Donc c'est un problème, qu'il faut régler. Donc, mais en même temps, on ne peut pas se passer de tous les travailleurs. Donc il faut des travailleurs fixes, mais le moins possible. Donc ça, c'est des réorganisations qui ont fait que, par exemple, aux États-Unis, ils ont licencié par dizaines de milliers les travailleurs surnuméraires qu'on gardait parce que quand votre point mort est à 500 000, vous avez toujours l'espoir de faire un bond à 2 millions sur un marché qui va reprendre. Mais pour redémarrer, il faut abaisser. Donc ça, c'est un truc qui a... Enfin, dernier point, enfin, je te laisse.
Oui, c'est Smally Beautiful, on verra comment ça a été retourné par le capital, y compris le plus gros capital aussi aux États-Unis.
Troisième point, qui va avec, c'est la destruction du lieu de travail en tant que collectif de travail. C'est-à-dire destruction en tant que lieu, c'est-à-dire ce qu'on appelait les forteresses ouvrières sont détruites, c'est-à-dire des usines qui faisaient 70 000 travailleurs tombent à 15 000. Berlier tombe à 5 000 alors qu'il y en avait 20 000, etc. Et puis, destruction donc de la forteresse ouvrière, de son organisation syndicalo-gestionno-patronale, et puis aussi, mise en réseau, externalisation, etc. Donc tout un ensemble qui touche la production et qui ne peut pas se comprendre donc sans une révolution technologique qui est intégrée au développement du capital et sans la financiarisation de l'économie qui n'est pas du tout surajoutée ou qui n'est pas du tout déconnectée, mais au contraire qui va financer ce développement technologique. Donc ce qu'André peut développer...
Voilà, je vais aller vite parce que bon, c'est très bien qu'on discute aussi après. Mais disons, tu as un peu entamé le truc. En général, on voit les choses comme s'il y avait d'un côté un capital industriel, comme en gros, certes plus moderne, mais comme s'il y avait d'un côté un capital industriel, et puis presque une espèce de superstructure, grosso modo, financière, technologique, etc. Même au niveau du projet de production moderne, du processus de production moderne, même sous cet angle assez restreint, c'est même pas ça, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il est absolument clair que, des innovations technologiques majeures, entre autres tout ce qui touche, évidemment, à ce qu'on appelle une nouvelle technologie de l'information, de la communication, quoi, qui sont pas simplement des histoires de comment est organisé TF1, enfin, en termes purement médiatiques, mais qui sont à tous les étages, je veux dire, dans les entreprises, etc., etc., etc. Ce qui a permis, par exemple, cette finalité... Le côté merci. Deuxièmement, la technologisation accrue, quoi, je veux dire, avec entre autres l'informatique, etc. Permettre, déjà d'écraser la pyramide, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, hein, mais d'écraser la pyramide avec la liquidation d'un certain nombre de chefferies intermédiaires. Donc, moi j'ai connu quand j'ai commencé à travailler en usine dans les années 70, à l'époque des derniers soubresauts du taylorisme, en gros, quoi, tout ce que ça impliquait comme pyramide hiérarchique, etc. Et deuxièmement, même, moi, ce que j'ai vu dans certaines boîtes où j'ai eu l'occasion de bosser, c'est la mise quasiment en réseau, quasiment direct, je veux dire, avec des termes, d'ailleurs, alors on retrouve, une des boîtes où je travaillais, on trouvait même le terme de savoir s'organiser de façon horizontale, enfin, on aurait dit presque au niveau du langage, je veux dire, du Deleuze, quoi, parce qu'effectivement, toutes les technologies, enfin, le type de, je veux dire... financiarisation et toutes les technologies qui étaient utilisées permettaient cela. Prenons un exemple très concret. Dans les années 70, on est en usine, moi par exemple des fois je suis à la chaîne ou même comme tourneur, enfin peu importe, et qu'est-ce qu'on a dans le dos? On a un chronométreur, très concrètement.
c'est tant de pièces à l'heure sur le tour, enfin bon, je ne vais pas détailler, c'est le coup classique hein, du système Taylor, qui ne se réduit pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, à la chaîne de montage, qui est un système de gestion et d'organisation du temps, je veux dire. Bon, donc ça veut dire les trucs très pratiques, très pratiques. Donc c'est pas un hasard qu'il y a des grèves dans les années 70, en particulier en France, où une des exigences les plus répandues, c'est abat les cadences infernales. C'est très concret, je veux dire. C'est bien des formes de lutte et de résistance qui correspondent à quelque chose qui existe. Donc il y a plein de grèves d'ateliers, en particulier sur abat les cadences infernales, dès qu'on tente de les faire augmenter, enfin, etc., etc., etc. Moi, je veux dire, depuis 25 ans, dans un pays comme la France, je ne dis pas que c'est tout rose dans les ateliers, mais comme par hasard, ce genre de choses a disparu, je veux dire, ce genre d'exigence. Pour quelle raison? Parce que, effectivement, le processus lui-même, qui n'est plus vraiment un processus de travail, d'ailleurs, c'est un processus de production, effectivement, il est organisé de façon complètement différente. Et entre autres, parce qu'il y a chacun, je veux dire, enfin, ce qu'il a dit tout à l'heure, je ne vais pas détailler, il y a 36 machines transfert, même il n'y a plus de tourneurs comme ça, qui manient le manuel, tout est, en grande partie c'est automatisé, etc. Et en plus, deuxièmement, ce qu'il faut insister, c'est qu'aussi bien le côté financier, bon, je veux dire, que le côté techno, facilite la fluidité de tout ça. Mais en termes même de rapport social, même dans les entreprises, c'est important ça à comprendre, je pense.
Mais c'est là que ça va se reporter sur les autres aspects, c'est-à-dire sur le travail et le marché du travail.
Justement, pour éviter d'engager un débat tout de suite sur l'histoire de précarisation qui, à mon avis, serait faux, enfin, non pas que c'est pas important, mais qui serait faux, je pense qu'il faut voir au-delà. Parce que c'est un processus qui va toucher même le gars qui a un CDI, je veux dire. C'est au-delà de la question de savoir si, effectivement, il a un CDD, s'il a un intérimaire, s'il est ceci, s'il est cela.
Et qui touche les cadres.
Et deuxièmement, alors qui touche les cadres, de plus en plus, parce que la hiérarchie relativement traditionnelle, enfin des cadres habituels, quoi. Ben évidemment, c'est normal que je sorte par les fenêtres, je veux dire maintenant chez Renault et ailleurs aussi, l'histoire des suicides, vous les connaissez, parce que ça touche tout, je veux dire. D'ailleurs, les enquêtes, je ne vais pas faire de la sociologie du travail, mais les boîtes dans lesquelles on bosse, auxquelles on avait été. De toute façon, on était tannés, on le savait, donc bon, voilà quoi. Mais les cadres, ils souffrent énormément. Donc c'est vrai, parce qu'ils sont soumis à un système général maintenant, dans lequel, effectivement, auquel ils n'étaient pas soumis. Je veux dire. Bon, ça n'empêche pas la hiérarchie, y compris l'entreprise, c'est pas de ça que je parle. Il y a effectivement une généralisation de ça, quoi. Bon. Donc là-dessus, je pense que c'est important. Et deuxièmement, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, mais ça peut-être qu'on va développer ensuite, c'est que, bon, évidemment, Où commence l'activité salariale, où elle se termine, jusqu'à quel point effectivement, où sont les limites de l'entreprise, où elle commence, où elle finit, quand ça commence, quand ça finit. Je sais pas, un simple exemple, les entretiens d'embauche. Moi, quand j'ai commencé à bosser, je veux dire, comme tourneur par exemple, on m'a demandé si on m'a fait passer un test pour savoir si je pouvais tourner, je veux dire, enfin, pour faire du tournage.
Pas cinématographique.
Non, du vrai tournage, bon, c'était assez mauvais d'ailleurs. Du tournage au sens les tours, les fraiseuses, etc., tout ça. Maintenant, ça fait longtemps que je ne suis plus dans ce genre d'entreprise, entre autres pour des raisons de fatigue. Et bon, je veux dire, je suis dans l'édition ou dans la presse. Je prends l'occasion. Comme petite main d'ailleurs, un correcteur, des conneries comme ça. Qu'est-ce qu'on me demande en entretien d'embauche? On me demande plus tout la même chose. On me dit, c'est bien, vous connaissez aussi la Chine, vous parlez aussi un peu chinois. Non mais c'est ça, je veux dire. Ça se pose même plus la question de savoir si j'ai rien foutu la moitié de ma vie, ce qui est le cas quand même. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui est chez moi capitalisable en général, je veux dire. C'est pas, il est tourneur, donc son boulot de tourneur est intéressant et capitalisable. C'est qu'est-ce qui est capitalisable chez lui en général. Ouais.
Voilà. Ça, c'est la question de la compétence par rapport à la qualification.
Donc, on y reviendra. Je voulais juste donner un exemple, ouais. Mais sur la question du temps, il faut vraiment voir que c'est totalement différent.
Je reprends sur la...
Donc, vas-y.
Ouais. Bon, maintenant, donc, sur la production, donc, je passe vite sur le travail. Donc, il en a parlé, ça fait le lien, donc, le déclin de la hiérarchie classique et surtout de cette hiérarchie verticale. La hiérarchie est toujours verticale, mais donc l'aspect pyramide, c'est-à-dire que les échelons sont simplifiés sont déplacés ou plus ou moins horizontalisés. Dans un cadre général, il a dit tout à l'heure André, où le travail disparaît sous la production, c'est l'organisation de la production qui est vraiment centrale et non plus l'organisation du travail. On peut dire aussi qu'avant, le travail était organisé sur la base de la norme productive. C'est-à-dire finalement, c'est pour ça que tout le monde, et pas que les marxistes, tout le monde, même le gars du coin, hein, parlait en termes de travail productif. Il disait, ou même quand on lui disait, toi qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est pas productif ça. C'est-à-dire que la norme, que ce soit productif ou pas, peu importe, c'était subjectivement pensé, etc. Mais de toute façon, tout le monde parlait en termes de normes productives. Aujourd'hui, c'est en termes de normes organisationnelles, finalement. Hein. C'est donc plus des notions du haut jusqu'en bas qui sont liées aux nouvelles formes de management, aux nouvelles formes d'évaluation, à des nouvelles formes de travail plus bon, par collectif, mais qui n'ont pas de, forcément d'autonomie, ce qu'on appelait les collectifs autonomes dans les réformes des années 70, les premières réformes de l'OST, quand les gens, on les a mis en équipe, où ils devaient avoir des objectifs plus collectifs, individuels, etc. Tout ça, c'est des transformations. Mais des transformations qui remettent en cause finalement les anciennes qualifications. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les compléments que j'ai distribués, on parle de la grille Parodi, qui est une grille qui était établie en 1945 par un ministre communiste du Travail et qui a fait office pendant toutes les Trente Glorieuses de grille centrale où on pouvait repérer, par exemple, que vous essayez dans la métallurgie, la chimie, etc., on pouvait relever des niveaux de qualification avec les OP, les OP1, P2, P3, Q1, Q2, HQ, etc., contremaître, agent de maîtrise, bon, toutes ces choses-là, reposant sur des qualifications plus ou moins légitimées ou légitimes, tels les diplômes, CAP, BEP, etc., mais aussi des voies de passage internes, de promotion interne, liées à l'ancienneté ou pas, bon, voilà. Mais toutes ces choses-là reposaient sur un élément plus ou moins collectif et jugé objectif, c'est-à-dire que vous étiez, par exemple, tourneur ou ajusteur, par exemple, mon grand-père était ajusteur, il était P2, donc ajusteur, vous aviez un CAP, vous commenciez P1, ensuite vous étiez P2, P3, et éventuellement, bon, vous terminiez au HQ ou contremaître même, etc. Mais c'était à la fois individuel et collectif, hein, c'est-à-dire que c'était dans le cadre du collectif de travail, ça avait une légitimité en tout cas reconnue à l'intérieur de la classe ouvrière, et finalement du mouvement ouvrier qui faisait que très souvent, sauf justement dans les mouvements des années 60 ou 70 où ça a été remis en cause, où c'était justifié par le mouvement lui-même. C'est-à-dire que l'essentiel des revendications étaient des revendications hiérarchisées et qui ne faisaient qu'accroître la différence étant toujours justifiée par la fameuse loi de la valeur qui détermine la valeur de votre travail, même si c'est la valeur de la force de travail, mais en fait c'est la valeur de votre travail. Donc finalement, si vous êtes plus qualifié, la valeur de votre travail est plus forte, etc. Bon. Donc ça, c'était pas remis en cause. Et ça a été dans les années 60-70, puisque, par exemple, la revendication italienne, c'était toujours, des années 60, dès 68, ça a été toujours de dire dans les ateliers, donc, salaire, augmentation, par exemple, de 100 lire ou de 200 lire, augmentation égale pour tous, réduction des basses catégories, remontée vers les hautes catégories, etc. Ça, c'était des revendications plus exceptionnelles dans le cadre des grands mouvements de lutte, mais autrement, le mouvement lui-même justifiait cette hiérarchisation en partie liée donc au diplôme et aussi à l'ancienneté. Par contre, avec la nouvelle organisation, la qualification est remplacée par ce que les patrons appellent, enfin pas que les patrons, hein, l'État aussi, dans la fonction publique par exemple, appelle la compétence. Donc une compétence qui est comme le temps de travail, comme plein de choses, comme le lieu de travail, qui est sans forme véritablement définie, qui peut s'étendre et aller de l'expérience du bébé nageur jusqu'à avoir des enfants, ne pas en avoir, ça peut intervenir. Alors dans certaines entreprises, si vous avez un enfant, vous serez mal vu, si vous n'en avez pas, vous serez mal vu, vous ne savez jamais s'il faut avoir, s'il faut être marié, s'il ne faut pas l'être. Ça, bon, vous ne savez pas quoi répondre si on fait une enquête sur votre aspect vie quotidienne, fonctionnement, etc. Parce que vos compétences, parler de chinois, encore dans la rue, j'entendais hier quelqu'un, un mec de 50 ans qui devait parler de son fils, mais qui était déjà âgé, qui disait « oui, bah, il s'est mis au chinois voilà, ». C'est vachement intéressant aujourd'hui de se mettre au chinois. Ça fait partie des compétences. Bon, potentiel. La qualification, c'était vite vu. Hein. Il y avait bien des ouvriers qui prenaient des cours du soir, soit syndicaux, soit autres. Mais c'était quelque chose de précis. C'était pour passer. Il y avait bien des promotions possibles. Mais c'était autre chose que cette.
Excuse-moi, je peux prendre un exemple, mais juste une seconde, ce qui me parle pour cette histoire. Il y a fort longtemps dans la région nantaise, donc je me présente un entretien d'embauche dans l'industrie assez classique, c'est-à-dire la métallurgie nantaise, pas classique. Puis évidemment, bon, j'avais tourné en Angleterre et j'avais pas spécialement travaillé, quoi, en Angleterre. Et j'arrive, et puis bon, j'avais mes qualifs, j'avais déjà travaillé dans le secteur de la métallurgie, tout ça. Et on me demande, c'est bizarre, les 6 derniers mois, vous n'avez pas travaillé, quoi. Bon, je dis, je réponds, bon, pas exactement ce que je faisais en Angleterre en 1981. Je réponds, j'étais en voyage, quoi, du genre, je me baladais. Ça a été terminé. Du genre fainéant, ce qui était assez vrai, fainéant, je veux dire. Bon, à l'heure actuelle, ce que je cite tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur le chinois, mais c'est très intéressant. Vous avez passé les six derniers mois en Chine à apprendre entre autres le chinois ou balader. On ne me demande même pas ce que je suis allé faire là-bas et qui j'ai vu, quoi. Bon. Potentiellement, c'est une compétence.
Oui, qui peut être capitalisée.
Voilà, c'est un truc de capitalisation de tout, quoi.
Donc, je continue pour terminer la présentation. Hein. Enfin, donc, toujours dans l'organisation du travail, ça va entraîner une mutation au niveau des statuts et salaires, enfin du salaire. Déjà, comme la compétence elle est plus individualisée, donc, c'est pas parce que. En fait, c'est toujours pareil, c'est pas le méchant qui individualise les salaires pour nous diviser. Il nous a toujours dit, enfin, il a toujours divisé et assemblé. On ne peut pas accuser le capitalisme d'avoir divisé, puisque le capitalisme, c'est l'un des modes de gouverner, enfin, de diriger, qui a le plus rassemblé, hein, et non pas divisé. C'est bien lui qui a mis les gens, qui les a enfermés dans les usines, donc on ne va pas nous dire qu'il a divisé. Hein. Il a rassemblé, et à l'intérieur des rassemblements, évidemment, il divise. Mais ça, il n'y a pas que le capitalisme qui fait ça. Dans n'importe quel groupe gauchiste ou dans n'importe quel milieu, on cherche à rassembler, après on divise. Donc c'est la chose la mieux partagée du monde. Mais, donc, il y a une individualisation qui n'est pas simplement la volonté patronale, mais elle correspond à l'ensemble. La preuve, c'est qu'on la retrouve au niveau de l'État, hein, par exemple, dans l'éducation nationale. Vous avez aussi une tendance à individualiser, même dans le cadre du barème très strict de la fonction publique, vous avez une tendance à l'individualisation des salaires et donc aussi à une transformation des statuts qui, eux aussi, vont être beaucoup plus individualisés en recréant ce qui ne sera pas forcément des différences très hiérarchiques, mais quand même des différences entre les personnes. Alors, dernier point, c'est au niveau du marché de l'emploi. Enfin, tout ça, disons, allant quand même vers une flexibilité plus grande du travail, qui correspond à la fluidité de la production, et qu'on va retrouver donc sur le marché de l'emploi, qui est le dernier touché par ce processus d'ensemble. Donc, le marché de l'emploi qui connaît donc pas mal de transformations, dont certaines sont plus générales, mais enfin qui convergent dans le même sens. Le processus de tertiarisation, donc, qui apparaît quand même véritablement qu'à partir du début des années 60, donc tertiarisation qui entraîne une transformation elle-même des conditions de comment dire des conditions de travail, c'est-à-dire que c'est contradictoire, c'est-à-dire que dans le processus de tertiarisation, il y a aussi un nouveau rassemblement, c'est-à-dire que le petit commerce devient le grand commerce, c'est-à-dire que là aussi il y a des structures qui étaient plus petites qui vont grossir, donc c'est pas tout un éclatement, c'est plutôt au niveau industriel qu'il y a l'éclatement, et par contre il y a de nouvelles couches qui arrivent et qui elles sont pas prolétarisées, je dirais, mais qui sont salarisées massivement avec l'entrée des femmes, une main d'œuvre immigrée aussi qui continue à arriver et qui peut être de plus en plus importante avant qu'elle soit limitée à nouveau. Donc une main d'œuvre qui rentre dans l'activité salariée à partir de secteurs différents, hein, que ça peut être la banque, les hôpitaux, l'éducation, bon, tous ces secteurs-là qui sont salarisés et qui touchent, qui vont vers la transformation de toute activité en travail pour le capital. On peut prendre jusqu'aux exemples des les nounous, etc. Donc les nounous qui deviennent des salariés, etc. Alors c'est un processus qui est très contradictoire parce que pendant que le capital détruit détruit du travail au sens traditionnel du terme, c'est par exemple il détruit des mineurs en supprimant les mines, il crée de l'emploi par exemple en créant les fils de mineurs deviennent vigiles, bon je prends un exemple caricatural mais bien réel, les enfants mineurs veulent devenir vigiles, etc. au lieu de devenir mineurs comme ils l'étaient avant, c'est-à-dire qu'il y a Il n'y a pas l'emploi qui disparaît puisqu'il se crée de plus en plus d'emplois, mais dans d'autres filières et des emplois dont on se demande, par exemple, quelle est, alors je ne vais pas entrer dans ce débat, mais quelle est l'utilité. Ouais. Prenez le métro, par exemple. Enfin, la France est un pays qui est très en avance pour ça. La France est un des pays où on a le plus supprimé d'emplois, hein, parce que on dit qu'on n'est jamais moderne, mais ce n'est pas vrai. La France giscardienne, par exemple, a été extrêmement moderne. C'est pour ça qu'on a le plus grand supermarché du monde, à part un ou deux Américains. C'est-à-dire qu'on a liquidé tous les commerces. On a été les plus rapides pour ça. Et en échange, la grande distribution travaille main dans la main avec l'État. Donc, par exemple, quand l'État dit « ne licenciez pas dans les supermarchés », il ne licencie pas. Quand ils disent « baissez les prix », arrangez-vous pour pressurer les producteurs, ils baissent les prix, ils pressurent les producteurs. Mais en tout cas, on. Voilà, et elle est limitée. Donc là, on aborde une contradiction qui est intéressante, c'est-à-dire que l'utopie, on pourrait dire que l'utopie du capital, d'une certaine façon, c'est de se passer du travail, mais en même temps. Alors on a d'autres exemples plus caricaturaux encore, c'est, ah oui, au niveau des pompistes aussi, autre exemple, hein, le pays où il y a le plus de postes d'essence au monde et où il n'y a pas de pompistes. Dans les autres pays, il n'y a pas de pompe, mais vous avez des pompistes.
Oui,
en Allemagne, vous pouvez tomber en panne si vous ne faites pas gaffe parce qu'il n'y a pas de pompe. En Italie, non seulement il n'y a pas de pompe, mais entre midi et deux, elles sont fermées. Bon, en France, c'est tous les 100 mètres, mais... C'est vous qui vous salissez, enfin, c'est vous qui faites le sale boulot. Donc, bon, une transformation quand même là des emplois qui sont donc une contradiction. On en crée certains, mais on en détruit d'autres. Et le problème, c'est que c'est pas dans les mêmes secteurs, que ce sont pas des emplois de même qualification.
Oui, c'est le secteur de la production.
Voilà. Alors, et même dans les emplois de service, prenez le métro. Bon, on arrive quand même à faire des métros sans chauffeur, mais avec des amis. Hein? Bon, je parle pas des frics des TCL, mais même des amis. Donc, on crée des amis. C'est pas les amis Facebook, mais c'est les amis. Donc, le lien social continue. Hein?
Non, mais je voulais
Voilà.
Souligner un petit truc, c'est que il est évident que l'économie en tant que telle, séparée du reste, donc n'existe pas, quoi. Je veux dire, il y a toujours des rapports sociaux, des contradictions, des rapports à l'État. On en a parlé un peu sur les prix là, et les supermarchés. Quand on regarde la grande distribution française et en relation avec l'État français, c'est tout ce qu'on veut sauf du libéralisme, quoi. Je veux dire, contrairement à ce que pensent les gens, quoi. C'est-à-dire manipulation des prix, bon, vous faites ceci, vous faites cela, tout ça en accord, évidemment, quoi. On est un milieu de les gens qui hurlent au néolibéralisme.
Il n'y a pratiquement pas un prix libre en France.
C'est tout ce qu'on veut, sauf ça, quoi, je veux dire.
Les seuls prix libres que vous avez, c'est pour ça qu'ils augmentent quand même pas mal, c'est si vous faites le marché. C'est malheureux à dire, mais c'est les seuls prix libres qui existent, c'est les prix du marché. Hein, et c'est pas les prix, c'est pas un gag, c'est les prix du marché. Mais autrement, presque tous les autres prix sont des prix imposés. Soit c'est les prix imposés par l'État, soit c'est les prix imposés par les firmes multinationales. Parce que ils se mettent d'accord sur les marges et sur les endroits où se font les distorsions de prix par rapport aux quantités de travail, aux dépenses, aux coûts, etc. Et ça, c'est très encadré, et croire qu'on est...
Même chose sur les... Je voulais souligner juste sur l'automatisation. Bon, l'exemple, c'est le TGV. Le TGV peut parfaitement circuler, en gros, depuis presque le début, mais pas vraiment le début, presque le début tout seul. Il n'y a nul besoin qu'il y ait un mec ou deux qui montent à l'avant, quoi. Je veux dire, c'est une blague. Ça, d'ailleurs, il ne sert à rien. Moi, j'ai des copains dans la SNCF. Comment ? Mais bien sûr, de toute façon, tu as tous les 200 mètres, si tu veux, tu as les cellules photoélectriques le bord des voies, si tu veux. Et je veux dire, les gros machins de contrôle tous les kilomètres. Un TGV, d'ailleurs, ça arrive des fois, un orage, je veux dire.
Ça sécurise.
Deux, si tu veux, il y a quand même un truc important. C'est que c'est des rapports, effectivement, sociaux aussi, c'est-à-dire c'est pas de la pure économie comme ça abstraite, c'est aussi des rapports sociaux qui se manifestent là, entre autres, je veux dire, par l'intermédiaire de la gestion à la française, si tu veux, de ce genre d'entreprise, qui implique les syndicats, les machins, les trucs, etc., sans développer. Donc c'est évident que, bon, y compris d'ailleurs, si tu veux, par exemple, une partie des patrons français, alors là, bon, je vais pas revenir sur toute l'histoire des patrons français et leur rapport à la technologie, si tu veux, mais qui en même temps, pas mal sont réticents dans certains secteurs à l'introduction, si tu veux, de technologies qui leur reviendraient d'ailleurs pas plus cher, mais va donc savoir, y compris par idéologie, par machin, par truc, par rapport avec les syndicats, ça foutrait le merdier dans les rapports avec les syndicats, si des innovations technologiques étaient trop, tu vois. Il y a plein de facteurs. Donc c'est pour ça que je disais, en réalité, il n'y a pas d'économie pure, quoi. Je voulais souligner ça, plus qu'un travail pur comme ça. Il y a tout un ensemble de rapports sociaux qui sont là. Et en France, c'est ce qui explique, par exemple, que bon, pour en rester à la production automobile, tu as eu des innovations importantes, si tu veux, en termes... Non, pas tellement de chaîne. Technique, si tu veux, dans la conception même des voitures, enfin sans faire du cocorico, mais tu as eu des innovations importantes dans la conception même des voitures. Et quand tu parles avec des gens d'Aulnay, ils sont juste à 6 km de chez moi, je suis à Montreuil, d'Aulnay, quand ils te parlent de l'organisation, enfin de la chaîne de production, c'est très peu robotisé, par exemple. Par contre, bon, au niveau de la conception des voitures, ils ont y compris vendu aux Japonais il y a plusieurs années. Je dirais quasiment des plans clés en main, quoi. C'est un peu les contradictions. Enfin, là, on parle de la France, c'est un peu les contradictions à ce niveau-là aussi à la française dans certains secteurs. Pas dans l'électronique de pointe, mais dans tout ce qui est un peu l'ancienne industrie lourde, je dirais.
Je termine là sur le niveau du marché de l'emploi. Donc, féminisation, tertiarisation. De plus en plus de gens sans. Alors, ça recoupe de gens sans qualification. Alors, il y a des nouvelles qualifications, les qualifications intermédiaires, par exemple, avec des exemples typiques, des professions qu'on cherchait à faire leur place en tant que qualification intermédiaire, comme par exemple les grandes grèves d'infirmières et infirmières de 86. Bon, il y a bien sûr des nouvelles qualifications, mais il y a aussi, dans cette tertiarisation, une masse de gens sans qualification particulière et qui sortent, et qui sortent véritablement de l'éducation nationale. Quand on dit les gens sortent de l'éducation nationale sans qualification, évidemment, quelle qualification on pourrait leur trouver, puisque si vous avez travaillé à Carrefour et que vous avez Bac plus 2, par exemple, ou même le Bac, je vois pas comment l'école pourrait déboucher sur une qualification si les postes proposés sont ceux-là. Donc dans la tertiarisation, il y a un flou absolu, qui correspond au flou général des activités proposées et qui permet justement là aussi de bouleverser les anciennes grilles parce que vous avez des, comment dire, un procès de production et un procès de travail qui rencontre une nouvelle main d'œuvre finalement qui n'a pas de tradition ou qui n'avait pas de tradition, que ce soit une main d'œuvre immigrée ou une main d'œuvre féminine qui n'est pas rattachée à un lieu précis, à une tradition industrielle ou ouvrière précise, et qui peut servir de force de travail basique pour un petit peu n'importe quel emploi en fonction des besoins. Donc il n'est pas étonnant si, à partir de là, que puisse se développer une précarisation. Parce que cette nouvelle force de travail qui arrive, elle n'a pas d'emploi précis, elle peut donc disparaître du jour au lendemain. Par définition, elle ne peut pas être garantie, même quand on reste dans un droit du travail très protecteur, comme le droit du travail français. Pas très protecteur par rapport à d'autres. Ce travail ne peut pas être garanti, parce que quand, par exemple, vous vous promenez dans la presqu'île et que vous regardez le nombre d'embauches qu'il y a dans les magasins, elle est énorme, mais ça ne peut pas être garanti. Ça peut de toute façon pas être garanti, parce que si vous passez toujours dans la presqu'île, vous allez apercevoir que le magasin devant lequel vous passez, tous les 6 mois, il y a marqué dessus « fermé pour cause de liquidation ou de transformation ». Donc tous les gens... Enfin, c'est un peu caricatural parce que tout le monde ne travaille pas dans les magasins de mode ou des choses comme ça. Mais c'est assez typique de l'emploi précaire. C'est pareil au niveau, à partir du moment où on dit qu'il ne faut pas produire le plus possible, mais où il faut produire le mieux possible, il est évident qu'on réduit le nombre de travailleurs garantis et qu'on met en place des transformations dans le style annualisation du temps de travail, des choses comme ça. De façon, justement, l'annualisation du temps de travail est encore une mesure très contradictoire, parce que l'annualisation du temps de travail, c'est anti-précaire au possible. C'est une mesure sur laquelle devraient s'élever les précaires. Parce que l'annualisation du temps de travail, elle n'est pas mauvaise, contrairement à ce que nous disent les syndicats et surtout la CGT et FO, elle n'est pas mauvaise pour les gens qui travaillent, elle est mauvaise pour les gens qui ne travaillent pas. Parce que si vous annualisez, c'est pour pouvoir n'avoir pas à embaucher. Parce que si vous annualisez pas, je caricature, parce qu'il y a aussi les heures supplémentaires, on peut faire des... Bon, mais si on enlève le truc des heures supplémentaires, bon, dans beaucoup d'industries, vous avez des moments où vous saisonniez, même si ce n'est pas des industries saisonnières, c'est des moments où il y a besoin de plus. Quand il y a besoin de plus, on a besoin de plus de gens. Mais avant... comme je vous le disais, ces gens, on les gardait, de fait. Donc, il n'y avait pas besoin. Le plus, c'était vraiment que l'intérim. C'était, pour ceux qui ont connu le début de Manpower, BIS, etc., à Lyon, à Paris, en France, c'était vraiment certains secteurs, comme le bâtiment, des trucs comme ça, des boulots bien spécialisés et pointus et bien payés. Très bien. Et autrement, c'était une sorte de petit volant, etc. Alors que dans le CDD, dans les formes nouvelles dérogatoires au droit du travail qui étaient classiquement élaborées en France, là, ça devient quelque chose qui peut faire partie des stratégies patronales. Bon, et donc c'est parce qu'il y a besoin. Il y a besoin de moins en moins de gens fixes et de plus en plus de gens variables. Donc on retrouve cette flexibilité qui est nécessaire pour adapter à une demande qui apparaît toujours dans le nouveau processus comme étant le commandeur. Donc tant que, par exemple, si on prend un cas simple actuellement, quand on parle de l'embauche par rapport à la croissance, il n'y a pas de sortie du cul pour chez droit. Si les patrons anticipent l'absence de reprise dans l'année qui vient, il n'y a pas d'emploi. Parce que le rapport entre emploi et production, il est très simple. Hein, c'est un truc mathématique. Pour que l'emploi augmente, il faut que la production augmente plus que la productivité. C'est-à-dire que si vous avez, enfin la production ou le taux de croissance, c'est-à-dire que si vous avez un taux de croissance, par exemple, de 2%, et que vous avez une productivité qui augmente de 1%, vous aurez possibilité d'améliorer l'emploi de 1%. Si vous avez, comme maintenant, une probabilité d'augmentation de la croissance de 0,5%, et qu'on peut penser que la productivité, l'augmentation moyenne de productivité est toujours au moins de 1%, bah, c'est, les calculs sont tout faits. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'augmentation de l'emploi, sauf ponctuellement dans certains secteurs. Voilà, parce que c'est de la gestion. Bon, moi je conclurai là-dessus, avant de laisser la parole à Zanier. C'est une gestion. C'est pas une gestion libérale ou néolibérale. Ce qui a changé, c'est que c'est une gestion à court terme. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler le système pour aller plus vite, le système n'a plus de perspective à long terme. Donc il gère à court terme. Voilà. Bon, donc cette gestion à court terme, elle n'est pas néolibérale. Simplement, quand vous gérez à court terme, vous avez besoin de plus de flexibilité. Vous devez bien en savoir quelque chose. Vous, quand vous faites des trucs à court terme, vous faites n'importe quoi. Vous zappez. Bon, ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va faire, on va prendre des mecs, on va prendre un CDI, on va leur dire, tiens, le gouvernement prend une mesure où je ne vais pas payer pendant 6 mois, si je ne prends pas, paf, je le prends, effet d'aubaine, comme on dit, clac. C'est ça, c'est de la gestion au coup par coup. Et c'est une gestion qu'on retrouve aussi bien au niveau de l'État. L'État pratique de la même façon au niveau de son recrutement des vacataires ou des auxiliaires.
Même en politique.
Voilà. Bon, donc on va faire une dernière partie juste sur la question de la précarité.
Une phrase sur ce que tu viens de dire, ce qui explique aussi pour toi l'engouement dans à peu près tous les domaines, y compris les domaines en apparence les plus éloignés, les domaines scientifiques, pour tout ce qui est théorie du risque, théorie du chaos, tous ces machins-là, quoi, qui sont à la mode depuis 15 ans, quoi, c'est-à-dire. Parce que ça correspond effectivement à ça aussi, quoi. C'est comment on gère les risques, à court terme, qu'est-ce qu'on fait là, pas simplement en termes des catastrophes industrielles, c'est vraiment une idéologie très à la mode, quoi. C'est antagonique avec ce qui se passait de ce point de vue-là il y a 30 ou 40 ans.
Alors, on reparlera peut-être des grilles, parce que, on en reparlera peut-être après, bon. Moi, je voulais aborder un peu justement les transformations, là, on a fait du rapport salarial, mais sous l'angle du travail précaire. Donc, pour commencer, je dirais que moi, je prendrais mes distances avec la notion de précarité, comme il avait utilisé un peu par les médias, ou comme un fourre-tout, en fait, qu'on retrouve aussi dans l'extrême gauche, etc. Et ce, pour deux raisons principales. Ma première raison, c'est que la situation des précaires a autant de situations différentes qu'inégales. C'est-à-dire que de l'étudiant pendant quelques années au chômeur ayant la cinquantaine ou encore de l'intermittent du spectacle, je vois mal ce qui les relie réellement. On pourrait dire objectivement, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, dans cette notion de précarité ou de précariat qu'on entend, on nous parle des 30 glorieuses où ça a été le boulevard, tout le monde était bien, ils avaient un travail, enfin un passé de l'abondance, le passé de l'abondance, et qui en fait est mythique. Bon. Alors que je pense qu'il y a des gens ici qui peuvent en parler, ça n'a pas été la période que c'est pas du tout ça la réalité. Il ressort que dans le travail il y a eu les maladies professionnelles qui étaient non reconnues, mortelles, à l'amiante, au plomb, etc. Dans les usines, c'est ce que André a déjà abordé, qu'il y avait toute la discipline de fer, le petit chef de ligne, enfin bon, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'un autre côté, il y avait tout un tas de logements insalubres, les bidonvilles qui ont persisté jusqu'à ce qu'on fasse les HLM.
Les conditions de vie, souvent ce qui est nié aujourd'hui,
moi, en tant qu'enseignant, je vous ai marré toujours et tout. Les élèves, je leur disais, enfin les grands, je leur disais, moi j'ai connu mon premier WC à 20 ans. Eux, ils passent leur temps sous la douche. Autre exemple, à la Doie, donc le premier campus, donc l'équivalent de Nanterre, les deux campus en France où ont démarré, d'abord à Nanterre, mais ensuite à la Doie, les événements 68. Il y avait un immense parking à la Doie, bon, je ne sais pas si vous voyez la Doie maintenant, mais il y avait un immense parking à la Doie, et d'ailleurs c'est un chantier toujours, hein, comme à Nanterre à l'époque, mais vous aviez cet immense parking qui avait été prévu comme étant un des trucs de base, quoi, et puis vous aviez 4 ou 5 deux chevaux qui traînaient sur le truc, qui étaient des deux chevaux d'occasion de mecs de Mâcon ou de Bourg, de fils de vignerons ou de vachers, enfin d'éleveurs, etc., qui allaient à la fac, mais il n'y avait pas une voiture en 67 à la fac sur le nouveau campus de la Doie. Aujourd'hui, autour de vous, dans notre monde de misère et de précarité, par exemple, il n'y a pas un enfant de 18 ans qui ne réclame pas comme un dû son permis de conduire. Donc c'est vrai que c'est pas pour dire... pour prendre l'inverse
de ce qui se dit,
etc. Habituellement, c'est dommage que le discours sur la période de ces années-là, etc., si favorable, ait été repris par...
on se demande qu'est-ce qui est transmis, des fois.
Des personnes qui... quelle transmission s'est faite aux jeunes, puisque chez les jeunes, entre guillemets... des milieux libertaires, gauchistes, etc., cette vision est perpétrée. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision qui est la vision du jeune, qu'on pourrait dire, décérébré d'aujourd'hui. Hein. C'est le jeune militant qui va expliquer que, vraiment, aujourd'hui, c'est dur de se payer des vacances, etc., ce qui est peut-être vrai, précarité, mais sans faire dans le misérabilisme, le truc de l'abbé Pierre, c'est en 52-53.
Oui, puis on se demande pourquoi il y a eu, des grandes révoltes. Il y a eu dans les années 70, pourquoi 70 pourquoi il y a eu des grandes révoltes si c'était l'abondance.
Parce que c'était merveilleux.
Voilà. Renault, par exemple, chez Renault, c'était un gag qui circulait mais qui était réel. C'est-à-dire que les temps de pause étaient tellement inexistants que les ouvriers pissaient sur les machines pour montrer que c'était pas possible. Justement, les luttes dans ces années-là sur la santé ont été très importantes, par exemple en Italie, la salute non se paga, et en France, par exemple, à Gerland, l'usine Pénaroya, lutte à laquelle j'ai participé directement, à Pénaroya, usine qui retraitait le plomb en reprenant les vieilles batteries, etc. Les ouvriers n'avaient même pas de lavabo, ils n'avaient même pas de lavabo à leur disposition, et c'était en 70, ils n'avaient, en 1970, pas en 70 après Jésus-Christ, en 1970, en 1970, ils n'avaient pas de truc pour se laver les mains, et on a été amené en rapport avec, donc à l'époque, un groupe un peu informel qui s'appelait les Cahiers de Mai, on a été amené avec des ingénieurs de l'Institut Pasteur à faire des analyses sur le plomb, à faire remonter, faire reconnaître comme maladie professionnelle, etc. Donc des choses qui aujourd'hui sont impassables. C'est comme les peintres de carrosserie, à la carrosserie tout, c'était des gens éliminés très rapidement par les cancers, etc. Donc c'est aujourd'hui le stress, d'autres facteurs interviennent et tout, mais c'était une période qui était, c'était des périodes qui étaient aussi très dures. Alors peut-être que ce qui est transmis aujourd'hui est mal transmis, c'est le fait que Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'espérance dans la tête des gens, d'une certaine façon, alors qu'à cette époque...
Non, mais comme on est dans le court terme, de toute façon...
Voilà.
Je veux dire, voilà. On est dans le court terme, de toute façon, tu ne peux pas te projeter à 6 mois, à 6 mois près. Donc, et ça, ça a des grosses conséquences, Enfin voilà, vous voyez.
On va peut-être revenir à ce que tu voulais dire.
Ouais.
Juste une phrase. C'est la première fois que j'ai travaillé, on m'a dit tu viens au chagrin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des mots qui sont même plus employés maintenant. Quoi. C'était le chagrin.
Je suis des amis à moi dans
mon corps. Ah oui, d'accord. Et deuxièmement, il y avait un prologue, une anecdote, mais c'est pas une anecdote, un prologue qui part à la retraite et j'y ai dit il avait 60 ans, 65 ans. Il dit tu pars en retraite, t'es content. Il m'a dit mon gars, quand si tu passes un jour, ce que je ne souhaite pas, 20 ans dans le bagne, tu comprendras pourquoi on appelle la retraite de la veuve.
Oui,
normal, ouais. Normal. Ouais. 2 ans après, il était mort.
Ah oui, et puis...
Donc voilà, je voulais juste... bon, vas-y, peut-être reprendre.
Oui. je voulais... on va reprendre. Donc. Sur la nature du travail précaire, donc... Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a, comme j'ai dit, il y a aussi la prise de distance avec la notion de précariat, parce que là où certains... veulent imposer en fait du sujet révolutionnaire dans la classe qui était la classe ouvrière, voudrait substituer en fait simplement une précarité de tous qui serait une unité de fait qui ce que moi
pas plus exactement une tendance, c'est-à-dire ce que voient des révolutionnaires entre guillemets, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus en... mais ça ils ne le disent pas. Mais dans leur tête, c'est, il faut qu'il y ait de plus en plus de précaires
pour qu'on puisse...
de façon à ce que ça forme un nouveau sujet révolutionnaire. Donc finalement, la précarité, oui, il faut mettre en avant la précarité, mais un peu de façon utilitariste, parce qu'on peut jouer les précaires comme on a joué les immigrés dans les années 70. Donc il faut que les précaires soient de plus en plus nombreux, et s'ils sont de plus en plus nombreux, ils pourront reformer ce sujet qui... sera porteur, puisqu'il n'y a plus rien à espérer de la classe ouvrière. C'est un peu comme ça, et je pourrais citer des noms de revues hein, qui ont, et très sérieuses, qui ont ce discours-là, mais sans le tenir de façon aussi claire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement chercher dans le précaire le nouveau, mais c'est de voir d'unilatéraliser, en quelque sorte, la tendance. C'est-à-dire qu'en fait, dans la critique et la théorie, toujours, chez les gens qui ont un soupçon de marxisme, chez les purs anards, j'en sais rien, mais chez les gens qui ont un soupçon de marxisme, c'est toujours de la fameuse tendance.
Ouais.
Alors ça peut être la tendance à la baisse tendancielle du taux de profit, mais ça peut être aussi, quelle est la tendance? Est-ce que la tendance, elle est à la précarisation ou pas? Et à partir de l'analyse qu'on fait, si... on pense que c'est la tendance dominante, on fait toute une analyse pour dire que c'est ça qui va dominer. Or, se dire, Xavier, et puis qu'on voit dans les situations concrètes des précaires, mais même dans les mesures de l'État, c'est loin d'être sûr, et ce qu'il y a de sûr, est-ce qu'on y a intérêt? Les précaires comme les autres, est-ce qu'on a intérêt à ce que cette précarisation
se généralise? Donc oui, la nature du travail précaire, c'est celui du job, celui de l'intérim, on en a parlé. Et en fait, c'est une situation d'entre-deux, une situation transitoire de fait, c'est-à-dire à la fois accroché au monde du travail, en même temps n'ayant pas son corollaire de droits et avantages. Donc ça, c'est vrai que sur la nuit, par exemple. Ça pose de sacrées questions sur son contenu, parce que, bon, on va peut-être y revenir. En même temps, comme on l'a dit, comme on l'a peut-être compris, c'est que d'abord, le travail précaire, ça a été aussi au début une manière de résister au travail tout court. Alors qu'aujourd'hui, c'est le capital qui a retourné cette pratique et qui nous emmène vers des... Enfin, on devient demandeur du travail. Dans ces, oui, conditions-là, dans ces conditions-là, il y a des attitudes quand on est précaire qui sont fondamentalement différentes. Dans les grandes entreprises, les travailleurs, ils sont complètement noyés dans la masse des autres salariés et ça les amène à soit être suivis des mouvements revendicatifs, soit et qui ne les concerne pas tout le temps, hein, et soit avancer leurs revendications propres, mais à s'isoler des autres. Et à l'inverse, dans certains secteurs comme ceux du commerce, surtout, enfin, je pense à la restauration et de l'hôtellerie, mais aussi nos bâtiments, les travaux publics, les TPE. Il y a un isolement qui est dès le départ présent, et il est géographique et à la fois dans la condition de travail telle qu'elle se passe. Parce qu'il y a plus de multiples lieux de travail, enfin, bon, il y a plusieurs choses.
Donc même si les précaires sont majoritaires presque dans ces secteurs-là, ça ne reforme pas de collectif de travail.
Ouais.
Dans la mesure où, objectivement, le lieu de travail qui est fait, le centralisateur, il n'existe...
Il y a une fragmentation.
Il n'existe plus.
Voilà.
Enfin, ou moins.
Donc, pourtant, l'unité sur le terrain, c'est de dépasser les barrières des statuts, des postes, des catégories, et ça, ça a jamais arrangé les syndicats. C'est-à-dire que personnellement, je l'ai éprouvé en tant que vacataire sur mon lieu de travail et dans la fonction publique, où si on voulait faire quelque chose, il fallait aller au-delà d'être le précaire qui est de passage. Il fallait aussi s'appuyer sur les titulaires, voire sur les contractuels, ceux qui osent, parce que la situation des contractuels, des fois, dans la fonction publique, elle n'est pas si simple que ça. Maintenant, je le suis devenu, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, pour monter ces luttes, on est vraiment dans une fragmentation telle que moi, j'ai eu des gens qui m'ont répondu pour des problèmes de salaire de façon très utilitariste, mais tout à fait logique aussi. C'est qu'elle est là pour... il lui restait un mois, elle n'allait pas remuer ciel et terre, et c'est un truc que moi, je ne peux pas ne pas entendre. Voilà. Pour aller un peu plus en avant, on dirait on a une essentialisation de la force de travail. Elle explique le travail précaire dans le sens où il n'y a pas avant tout une volonté de rendre le travail précaire pour comme un, je sais pas, un complot de rendre le travail précaire, mais il s'inscrit dans le cadre plus large de la crise du travail, mais où le salariat domine toujours. Et dans ces conditions-là, on est tout le temps mis en défaut, quand on est précaire, de se rapprocher à ce monde du travail sans trouver de ressources, sans avoir tout ce qui permet en fait de construire une communauté du travail.
C'est le salariat qui continue à structurer le rapport social, mais plus le travail. Donc ça pose un problème à l'équation. Donc il est résolu partiellement par la notion d'employabilité ou de l'emploi.
Voilà.
C'est-à-dire chaque personne doit soigner son employabilité pour justifier de son insertion dans le rapport salarial intégrateur. Par exemple, les trucs sur le RMI, RMA, les machins comme ça, les discussions et polémiques autour de ça, à partir du moment où vous refusez des formes de revenus garantis, ce que continuent à faire donc les États en général, à partir du moment où on refuse les formes de revenus garantis, il faut que le revenu passe par le salariat, mais sous des formes très variable, et ça peut être sous la forme oui, de retour à l'activité, enfin sous la forme de stagiarisation, la mode des stages, ça peut être sous différentes formes. Il faut que vous restiez à l'intérieur de cette structuration qui continue à agir à tout niveau, puisque c'est à partir de là que vous pourrez avoir une sécurité sociale, aller à une agence immobilière, avoir un carnet de chèques.
Et même quand on est chômeur, on vous demande en fait de faire de la recherche d'emploi à temps plein, comme si c'était un travail.
Je suis technicien en recherche d'emploi.
Ouais, on est d'accord. Voilà. Et ça, c'est quand on est confronté au truc, on se dit c'est pas possible, quoi. Il y a un problème. Enfin, c'est. Donc ben, ouais, on arrive à peu près tout à ce qu'on.
Juste pour faire un peu un état du lieu, mais tu veux comprendre ce que
non, c'est la fonctionnalité. Non, mais c'est par rapport. Je voulais juste dire que très souvent, quand les problèmes sont posés comme ça, il y a beaucoup de réticence, parce que d'abord, bon, réticence, je parle dans le milieu radicaux, révolutionnaires, je ne sais pas pourquoi, quand les problèmes sont comme ça, c'est comme si on disait que ce monde, dans la mesure où le travail n'a plus un rôle central en termes de valorisation du capital, pour employer les termes théoriques, c'est comme si on était en train de dire que ce monde allait devenir plus aimable, que ça allait être plus sympa, ou je sais pas trop. Ah non, c'est pas ça. C'est juste de comprendre déjà, et puis c'est pas. Il y a un certain nombre de choses, c'est pas des nouveautés. Il y a au moins 40-50 ans qu'un certain nombre de critiques de la société actuelle, par exemple, disent que, avec le rôle grandissant de la technoscience à tous les étages, par exemple, la question, je sais pas moi, même théoriquement, de la fameuse histoire de la valeur travail n'a plus trop de sens. Je sais pas moi, la première fois que je l'ai vu, c'est Adorno, dans les textes. Oui, enfin, il y a plein, on pourrait en prendre plein. C'est des discussions, par exemple, quand j'allais dans les pays anglo-saxons, à l'époque, déjà, il y avait à travers des trucs de Marcus, tu vois, à New York, tout ça, il y avait déjà des trucs comme ça qui étaient posés. De façon assez différente de maintenant, on ne peut pas le poser exactement de la même façon. Mais ça, c'est. Il y a quand même, je veux dire, il y a toute une histoire de cette critique, je veux dire, quoi. Il y a toute une histoire de cette critique, à savoir que, bon, ben oui, bon, grosso modo, je veux dire, ce qui est travail en ancien. D'ailleurs, le mot n'est même plus employé, c'est emploi, enfin, tu vois, c'est, ouais. qui parle de travail, c'est emploi, quoi. Ou effectivement, employabilité. Il faut toujours être prêt, si tu veux, quelque part, à quelque chose qui va quasiment pas exister, quoi, ouais. Je veux dire, mon oncle, enfin, pour parler simplement.
C'est un jeu de dupes, en plus.
Donc, c'est un petit jeu, parce que je pense quand même que le travail, en tant que rapport social, continue, effectivement, à quelque part structurer l'ensemble de la société, à des degrés divers, hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure, du genre, bon, c'est lié à... Oui, c'est lié. Enfin, je sais pas, aux États-Unis, tu veux une carte, une carte de crédit, quoi. Tu n'es pas une carte simplement de paiement comme ici. Il faut une carte, je veux dire, la carte de crédit, elle joue un rôle déterminant pour avoir un appart, etc. Ta carte de crédit, quelque part, tu l'as quand tu bosses, même de façon relativement intermittente. Je veux dire, un chômeur aux États-Unis, disons presque permanent, c'est bien connu, il n'a pas de carte de crédit, quoi.
Non, mais
bon, ça veut dire que, bon, quand on lui demande...
Place, hein.
Non, mais même, je parle en termes d'ouverture, non pas de droit, mais d'ouverture, ouais. De possibilités de consommation au sens plus large. Tu vas à New York, si tu n'as pas ta carte de crédit, je veux dire, on ne te demande pas si tu es martien, français, suédois, juif, du Bronx, je ne sais pas trop quoi, tu vois. On te dit, pour prendre un appartement, est-ce que vous avez une carte de crédit? Si tu n'as pas ta carte de crédit, je veux dire... T'as plus qu'à aller coucher sur les ponts de Brooklyn, quoi, enfin, les bordures de la rivière du Bronx, enfin, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe, je veux dire. Or, c'est lié à quoi, même dans ce genre de pays? C'est lié au fait que, quelque part, t'as été inséré dans le circuit de l'activité salariale. Je dis bien quelque part, si tu veux, ça veut pas dire que t'as un travail permanent, etc., etc. Donc, c'est bien quand même que cette activité salariale continue à jouer un rôle, je veux dire, même si... Des fois, comme tout le monde, moi le premier, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça n'a plus aucun sens, c'est n'importe quoi. Tu vois, enfin, je ne sais pas quoi.
Bien, la notion d'exclusion, d'ailleurs, c'est assez bizarre, a disparu, d'ailleurs. Hein. La notion d'exclusion, c'est une notion des années 80.
Ouais, c'est vrai.
Qui est d'ailleurs une notion étatique. C'est l'État qui a parmi les premiers des exclus. Il y a eu un rapport, je l'appelle le rapport Lenoir, sur l'exclusion. C'est un conseiller de ministre
le mot a disparu et on parle de... Enfin, alors que la situation s'est, par certains côtés, dégradée du point de vue des inégalités et puis la situation de l'emploi s'est dégradée, on ne parle plus d'exclusion comme si il était inclus, c'est le cas de le dire, que différentes mesures telles que la CMU, telles que les revenus RSA, les fonds de RMI, les machins, et tout comme ça. Le revenu social, ce qu'on appelle le revenu social dans son ensemble, faisait que c'était admis quand même que tout le monde, enfin qu'il n'y avait pas d'extérieur, quoi. Qu'il n'y avait pas d'extérieur, qu'il y avait une reproduction des rapports sociaux chaotiques et une difficulté de cette reproduction, mais que quand même, grosso modo, elle s'effectuait, y compris si elle devait prendre des formes illégales, comme par exemple quand c'est l'État qui laisse se développer des formes de travail clandestin ou des formes de travail illégal dans la drogue ou la prostitution ou autre, qui assurent des revenus mais qui ne peuvent pas être déclarés comme des revenus normaux, disons, hein, mais qui en tout cas permettent de maintenir une situation qui finalement est assez calme, hein, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être passer aux questions.